Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors que le froid se réinstalle, notamment dans la moitié nord de la France, il est question de nouveau du sort des personnes sans domicile fixe, les SDF. Et Franck Ferrand nous parle aujourd'hui des indigents d'hier et d'avant-hier sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Autrefois, on faisait la distinction parmi les gens pauvres entre les mendiants, qui faisaient l'aumône, mais qui parfois possédaient un abri, et ceux qui erraient sans attache et qu'on appelait des vagabonds. Comment vivaient-ils ces vagabonds et peut-on les relier d'une manière ou d'une autre aux clochards d'hier et aux SDF d'aujourd'hui? Ce sont des questions que le professeur André Guélin s'est posées avec beaucoup de précision depuis 30 ans.
Et vous avez aussi invité sur Europe 1 le professeur Dominique Khalifa.
Oui, Dominique Khalifa, élève d'André Guélin et qui a notamment travaillé de son côté sur les bas-fonds. Notre émission d'aujourd'hui va nous mener, vous l'avez compris, dans le monde de l'extrême pauvreté.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Dans les années 1880, en Amérique du Nord, et notamment dans l'État de New York, il était connu comme Leaderman, l'homme de cuir, parce qu'il déambulait, attifé d'une curieuse vêture qui était composée de pièces de cuir, les plus diverses qu'il avait cousues ensemble pour s'en faire un vêtement chaud. On le voyait constamment sur les routes, par les villes et les villages, entre le Connecticut et l'Hudson, et du fait de cette étrange apparence, il faisait beaucoup, beaucoup parler de lui. Il s'exprimait mal en anglais et parfaitement en français, ce qui faisait juger qu'il était sans doute canadien du Québec. À sa mort, on retrouvera d'ailleurs un missel en français dans ses pauvres affaires. En vérité, Jules Bourglet, c'était son nom de baptême, venait de France, de Lyon, où il était né vers 1839 ou 1840. Mais en dépit de recherches répétées, car encore une fois aux États-Unis, Leaderman était devenu une sorte de célébrité, le plus fameux des vagabonds, malgré ces recherches donc, on ne sait quasiment rien des circonstances qui l'avaient amené à adopter cette vie d'errance et de mendicité. Sa taille, son allure, sa tenue et plus que tout cela, l'incroyable santé qui lui permettait de parcourir de très grandes distances, l'avait seul sorti, si l'on peut dire, de l'anonymat. Et c'est tout le paradoxe d'un sujet comme celui d'aujourd'hui. Par définition, les vagabonds, ceux qu'on appellera un peu plus tard les clochards, ne laissent généralement pas de traces et rarement un nom. Ce ne sont pas individuellement des sujets d'histoire. Évidemment, Charlot, le plus célèbre des vagabonds, immortalisé par Charlie Chaplin, mais enfin on est dans la fiction, est un peu la figure emblématique des clochards. Mais quid de tous les autres? On connaît, je vous le concède, le personnage de Boudu, encore la fiction, si formidablement interprété par Michel Simon dans le film de Jean Renoir, Boudu sauvé des eaux, un film, on peut dire, sur la liberté de chacun et sur le refus de certains de pactiser avec la société et ses règles. Me vient à l'esprit dans la même veine le Ratso de Macadam Cowboy, vous savez, avec Dustin Hoffman. Certains d'entre vous se rappellent peut-être aussi le personnage de Davies dans la pièce d'Harold Pinter, Le Gardien, une sorte de Boudu en bien plus sauvage et plus irascible. Et puis, bien sûr, dans le champ du théâtre, Vladimir et Estragon, les clochards merveilleux et pathétiques de la pièce de Samuel Beckett En attendant Godot. Je ne vais pas aligner toutes les œuvres inspirées par l'indigence et le vagabondage, si ce n'est les bas-fonds de Maxime Gorky dont on va reparler tout à l'heure. Je ne citerai pas davantage les enquêtes et études le plus souvent contemporaines consacrées au sujet. Je pense notamment au livre « Les naufragés » de Patrick de Clercq sur les clochards de Paris. En dehors de ces quelques références, force est d'admettre une fois encore que les clochards, les sans-abri, les vagabonds, ceux qu'on appelait autrefois les gueux de toujours, se fondent dans les zones d'ombre des villes et dans celles de l'histoire, des campagnes aussi, et c'est une des choses que nous allons voir aujourd'hui. On ne les aborde le plus souvent qu'à travers ceux qui les ont aidés, comme Saint-Vincent de Paul, dont je vous parlerai tout à l'heure, ou bien sûr l'abbé Pierre. Les clochards n'ont pas de nom, mais ils ont une identité. Ils ne laissent pas de traces individuelles, mais ils ont bel et bien une histoire collective. C'est elle que je vous propose d'essayer de cerner aujourd'hui en compagnie de deux historiens du vagabondage et de la pauvreté. Cette histoire de tous ceux qui, depuis le Moyen-Âge, survivent dans les marges plus ou moins étroites de la société.
Thank you.
extrait sur Europe 1 de la BO du film de Charlie Chaplin, The Kid. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités Franck aujourd'hui sur Europe 1, André Guélin qui est spécialiste de l'histoire de la grande pauvreté, auteur notamment d'ailleurs et de nulle part, mendiant, vagabond, clochard, SDF en France depuis le Moyen-Âge, disponible chez Fayard. Également avec nous Dominique Khalifa, auteur quant à lui notamment du livre Les Bas-fonds, histoire d'un imaginaire chez Seuil.
Oui, c'est sur une dimension plus culturelle et de représentation de ce qu'a été cette partie-là de la société. Bonjour à tous les deux, merci d'être ici. Alors j'ai dit à l'instant, Dominique Khalifa, que vous aviez été l'élève d'André Guélin et vous avez fait non, peut-être. Vous
auriez aimé, peut-être. J'ai travaillé avec plaisir avec André Guélin lorsque nous étions dans la même université, mais je suis un élève de Michel Perrault et d'Alain Corbin.
Alors voilà, qui est rectifié. Nous allons essayer de cerner cette population qui a été une population beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, il faut le dire, même si évidemment il y a toujours trop de personnes en difficulté. Mais aujourd'hui, on peut estimer le nombre des SDF à peu près à combien, André Guélin ?
Disons entre 100 et 150 000.
Voilà,
100, on pense que 100 000 il y a quelques années, et maintenant avec les difficultés économiques, qu'on a 150 000.
Alors qu'on a pu monter à certaines périodes de l'histoire jusqu'à plus de 2 millions, 2 millions et demi d'indigents.
Oui, avec la seule différence, c'est que historiquement, on estimait. Alors qu'aujourd'hui, on compte.
Alors davantage. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus précis aujourd'hui.
C'est plus précis, voilà. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Âge, par exemple, on a des nombres de l'ordre de 25%. À un moment, à Paris, sur 250 000 personnes, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont considérées mendiants ou vagabonds.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire que les vagabonds d'autrefois, et du Moyen-Âge notamment, sont d'un point de vue sociologique, dans leur position sociale et dans leurs mœurs, dans leurs habitudes, est-ce qu'ils sont les ancêtres des vagabonds, enfin des SDF d'aujourd'hui ?
D'une certaine façon, oui, dans l'apparence, et non dans la réalité.
Et voilà.
Parce que les vagabonds mendiants professionnels qui errent dans les villes et dans les campagnes au Moyen-Âge sont des gens qui ont plus des réactions individuelles. Par exemple, il y a des gens qui cherchent un emploi aujourd'hui, qui sont souvent comme SDF, classiquement, les livres magnétophones qui sont publiés aujourd'hui vous montrent que des gens qui avaient un emploi perdent leur emploi et tombent en vagabondage. Donc c'est une question structurelle.
Je précise du reste que depuis quelques années, depuis 1992, le vagabondage en France n'est pas un délit. Je me rappelle quand j'étais petit, on me disait « prends une pièce de 5 francs, sinon tu seras en délit de vagabondage ». Ça n'existe plus, ça, en fait.
C'est hein. ça. Mais on continue à dire à l'enfant « travaille bien à l'école parce que tu serais SDF ». Donc, dès le code pénal de 1810, sous Napoléon Ier, eh bien, on crée un délit de vagabondage. Mmh. Et donc, question de scandale, puisque actuellement, on a toujours l'affaire des présumés innocents. Or, dès 1810, en ce qui concerne les vagabonds, ils sont présumés coupables.
C'est ça, voilà. Il y a une présomption de culpabilité sur le vagabond, voilà. En fait.
Alors, on arrête dans le code pénal 94. Pourquoi arrête-t-on ? Parce qu'on pense fondamentalement que le vagabondage va disparaître.
Alors, on verra tout à l'heure justement ces grandes évolutions, le fameux grand enfermement de la fin du XVIIe siècle, cette judiciarisation du début du XIXe. Revenons, si vous voulez, au gueux du Moyen-Âge. D'où venait-il, Dominique Khalifa ? C'est intéressant peut-être de s'arrêter sur les mots, sur les termes,
oui,
qu'on employait.
Absolument, et ça va me permettre de répondre aussi d'une manière différente à la question sur les ressemblances.
C'est ça.
Parce que je pense qu'il y a deux différences fondamentales entre les gueux, les vagabonds d'hier et puis ce que nous appelons aujourd'hui nos SDF. C'est que la première, c'est que c'était pour la plupart des gens qui étaient à la recherche de travail, dans une mobilité du travail, dans des migrations saisonnières à la recherche du travail, alors que nos SDF contemporains ont perdu leur emploi. On est dans une exclusion du travail.
Et le schéma est inversé.
Le schéma est pour partie inversé. Et puis, c'était surtout une réalité rurale, parce que la sociologie était rurale, alors que depuis le début du XXe siècle, le clochard, etc., c'est devenu des produits vraiment de la société urbaine. Alors, les gueux, c'est vraiment la réalité du mauvais pauvre de l'époque moderne, du XVIe, XVIIe, XVIIIe.
Pourquoi mauvais pauvre ?
Alors, mauvais pauvre, parce que ça, André l'explique aussi très bien, mais à partir du milieu du Moyen-Âge, à peu près, et surtout de la fin du Moyen-Âge, le discours catholique, le discours chrétien dominant qui sanctifiait le pauvre va demeurer, mais va se doubler d'une deuxième représentation qui va avoir une belle histoire devant elle, celle des mauvais pauvres, c'est-à-dire des pauvres qui simulent la pauvreté, qui pervertissent la charité.
C'est ce que nous disions l'autre jour à propos de l'émission sur la Cour des Miracles, avec
Absolument.
Tous ces simulateurs, évidemment, qui vont avoir tendance à modifier l'image du pauvre dans le public, une image qui, pendant longtemps, avait été un peu à l'image de ce qui, à l'instar de ce qui existait en Russie avec les starets, qui était un peu l'image d'un saint, quelque part, enfin, en tout cas, de saints hommes. À partir du XVIe siècle, les choses commence à dégénérer. Voilà.
Et là, on est au cœur de l'histoire,
mais aussi, ça tombe bien.
mais aussi d'un phénomène de convergence. C'est-à-dire que ce qui caractérise principalement cette identité, c'est le regard de disqualification
Évidemment.
Porté à partir de là sur l'ensemble
Donc,
de ces individus.
Permettez-moi
réalité...
de porter une nuance.
Oui.
C'est pas qu'on invente les mauvais pauvres. On invente une taxinomie qui fait qu'il y a
c'est
des
ça,
bons
voilà,
et des mauvais.
Sûr, voilà.
Donc on invente des bons aussi.
Quelle est
des
la réalité et quel est le regard qu'on porte sur elle? C'est ce que nous allons voir dans, et Dominique Califal l'a dit lui-même, cette émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Charlie Chaplin, Les Lumières de la ville, Franck.
Alors, nous avons établi d'emblée cette distinction entre mendiant et vagabond. Le vagabond, André Guélin, c'est celui qui est dans l'errance et qui chemine, qui bouge en permanence.
C'est celui, comme on dit au Moyen-Âge, qui vague.
Qui vague, hein, d'où le nom vagabond.
Ouais, on les appelait les gyrovagues, donc ils bougent. Mais les mendiants peuvent bouger également.
Oui.
C'est ce qu'on appelle l'image du mendiant professionnel, qui est quasiment un vagabond. Mmh. C'est-à-dire qui navigue, qui vague à courte distance. Alors que le vagabond peut vaguer à très longue distance.
Dans l'image qu'on s'en fait, dans la représentation qu'on a pu en avoir, à quoi ressemble ce vagabond, Dominique Califa?
À quelle période? À l'époque moderne?
On est à l'époque moderne, oui, 16-17e.
Alors à l'époque moderne, il est en haillons. Les gravures qui le mettent en scène et qui circulent beaucoup dans l'Europe. Il y a un vrai moment à partir du XVIIe siècle où il y a en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, une circulation des images. Tous se ressemblent. Ils sont en haillons. Ils portent des besaces. Ils ont souvent le corps affaibli, maladif, des estropiés, éclopés.
Et pourquoi
aveugles.
Parce qu'ils marchent tout le temps quand même. Et ils ont un bâton comme les pèlerins d'ailleurs.
Et le bâton du marcheur, effectivement, oui.
Le bâton ferré. On les reconnaît ça.
Ils ont des espèces de galoches, enfin de gros sabots aussi, hein, c'est souvent.
Sabots à l'origine.
Oui, c'est ça. Pour permettre justement cette pérégrination, cette déambulation. D'où vient ce côté nomade? C'est qu'ils sont. Après quoi courent-ils? Du travail, de l'argent, des aides?
Eh bien, si vous voulez. Ils cherchent quelque chose. C'est-à-dire que, typiquement au Moyen-Âge, un village est ruiné, par exemple, par une épidémie, par un orage de grêle qui ruine les récoltes, et les gens n'ont plus rien, donc se mettent en route. Ils vont chercher, ils vont quêter leur pain, comme on dit. Quêter leur pain, c'est-à-dire trouver à l'extérieur s'ils auront quelque chose. Alors, il arrive, évidemment, que les travailleurs agricoles soient itinérants. C'est une structure du travail agricole ancien qui est un travail d'itinérance. Donc là, ils peuvent voyager de ferme en ferme pour trouver quelque chose. Mais on peut les assimiler des vagabonds, mais ils ne sont pas tout à fait des mêmes vagabonds que ceux qui partent à la dernière extrémité. Et puis, il y en a quelques-uns, un tout petit groupe, qui partent par plaisir. Et ça existe encore maintenant, comme
mais
vous
oui,
le savez.
Bien sûr, oui.
Et donc, mais c'est une très petite minorité.
Le clochard héroïque ou céleste, comme aurait dit London.
Voilà, c'est ça.
Kerouac plutôt.
Le clochard romantique, oui.
Est-ce qu'on peut dire, Dominique Califa, que ces clochards qui sont errants sont aussi à la recherche d'abri, peut-être, et de soutien?
Oui, naturellement, hein. Ce sont des êtres humains comme les autres.
On voit des hospices naître peu à peu, des asiles.
Bien sûr, ils sont à la. Alors les hospices et les asiles qu'on voit naître sont la plupart du temps des structures plutôt d'enfermement et plutôt de répression que d'entraide, parce qu'il y a un phénomène que je sur lequel je pense on peut dire un mot, qui est que ces pauvres, ces vagabonds, ces indigents que André vient de présenter, sont aussi rejoints par des individus plus complexes. Par exemple, le nombre de déserteurs, des armées qu'on voit.
À mesure que les guerres se développent.
Des bandes, etc.
Et les pèlerins. Les faux pèlerins.
Et les faux pèlerins, quelques criminels aussi. Ce qui fait que très très vite, un sentiment va naître dans la population et dans l'imaginaire.
Vous dites criminels parce que le maillage judiciaire est évidemment beaucoup moins accompli qu'aujourd'hui et il est plus facile d'échapper à une juridiction en se sauvant tout simplement. Hein.
Absolument. Ce qui fait qu'effectivement, la notion de gueux que vous évoquiez tout à l'heure, celle de bas-fonds qui émerge à partir du 19e siècle, vont devenir en quelque sorte des espèces de catégories attrape-tout dans lesquelles on va mêler l'ensemble de ces irréguliers et de ces personnalités déviantes au nombre desquels, bien sûr, les vagabonds et les pauvres.
Et est-ce qu'il est possible, en fonction des événements historiques, je pense aux guerres, aux épidémies, bien sûr, et notamment aux épidémies de peste, est-ce qu'il est possible de voir des modifications dans le nombre des indigents et des vagabonds? Oui, on les voit croître à certaines périodes.
La peste noire en 1350 a complètement bouleversé le paysage. Donc, d'une certaine mesure, on peut penser que c'est à ce moment-là qu'apparaissent ces vagabonds. Et puis alors, on se demande aussi pourquoi la peste. On ne sait pas du tout à l'époque. Et donc, on se dit, la peste vient de quelque chose. C'est peut-être le bon Dieu. Mais quand on a dit le bon Dieu, on se demande qui c'est. Est-ce que ce n'est pas au juste ces gens qui errent, qui apportent dans leur souffle le souffle de l'épidémie?
Oui. Alors on connaît bien sûr les grands travaux de Michel Foucault sur cet enfermement qui apparaît au milieu du XVIIe siècle à peu près.
L'hôpital général apparaît au milieu du XVIIe, mais il avait été précédé de tentatives de répression des pauvres, car il gêne ces pauvres. La valeur
qui dérange-t-il en vérité?
Il dérange la société à un moment effectivement où la sédentarisation devient une valeur de plus en plus forte, à un moment où le travail est investi d'une vertu de plus en plus forte, il dérange un ordre social qui tend à se constituer en dehors d'eux. Ils sont des inutiles, ils sont des surnuméraires, ils sont des inutiles au monde, comme on dit à l'époque. D'où la nécessité, effectivement. Et la suspicion les frappe toujours. Sont-ils vraiment si pauvres que ça? Ne sont-ils pas en train de profiter? D'où la nécessité, effectivement, de l'étiquetage, puis de l'enfermement.
Et plus on va avancer dans le temps, et notamment à partir du moment où c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir après la Révolution française, on va voir leur statut de plus en plus mis en cause. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de diabolisation, en quelque sorte, des pauvres.
Elle commence quand même dès avant la Révolution.
Bien sûr, oui.
Dès l'hôpital général, puisqu'on les enferme, c'est que c'est des gens
diaboliques. Dès le règne de Louis XIV, en fait.
Dès 1656. Oui. Hein, l'hôpital général, c'est 1656. Alors, on les met en prison parce qu'ils gênent.
Avant d'en venir à ces périodes encore plus sombres, j'aimerais évoquer la figure d'un très grand personnage qui, bien sûr, dont le nom se confond avec l'histoire de la pauvreté en France, c'est Vincent de Paul.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 qui s'intéresse maintenant à la figure de Vincent de Paul.
Jamais de mémoire d'homme, on avait vu tant de pauvres gens réunis. Une mer, un océan de miséreux, de gueux, de loqueteux qui se pressent autour de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à deux pas du Louvre et du roi, pour tenter de prendre même de loin, pour tenter de s'approcher de la bière installée dans le cœur de l'église. On est aux obsèques de Monsieur Vincent, qui sera canonisé trois quarts de siècle plus tard par l'Église et qui deviendra Saint Vincent de Paul. L'aumônier des galères, le fondateur des Filles de la Charité, l'ami des pauvres, lumineux dans son extrême humilité, rayonnant dans sa simplicité qui confine à l'effacement, au dénuement, ce petit homme au regard noir et fixe, au nez fort, au sourire béat, ce petit homme toujours vêtu de noir et de gris avec son bonnet de misère, Monsieur Vincent vient de mourir le 27 septembre 1660. On procédait à ses obsèques à ce moment-là, hein, juste avant d'aller l'inhumer près des près des pauvres, en la maison Saint-Lazare du Faubourg Saint-Denis. Fascinante trajectoire que celle de ce petit paysan de Pouy, près de Dax, né en 1581, si je ne m'abuse, c'est l'année où Montaigne publiait ses essais. Fascinant destin d'un homme d'abord bouillant, instable, un jeune homme à l'âme d'aventurier qui peu à peu aura trouvé sa voie dans le dévouement absolu aux démunis et dans le service de Dieu à travers l'aide aux hommes et aux femmes de rien. À 6 ans, il avait dû, comme tous les gamins de la paroisse, il avait dû mener les cochons noirs à la glandée et il s'apprêtait à une vie qui aurait dû être la vie d'un paysan parmi d'autres. Sauf que, il se trouve que Monsieur de Comet, qui venait de Dax, qui était juge de la paroisse, il exerçait un certain nombre de fonctions de prévôté, disons, a remarqué ce petit garçon. Il a vu ce regard assez extraordinaire et surtout les réparties incroyablement mûres chez un enfant qui avait à l'époque 10-12 ans. Et il va décider de prendre ce petit Vincent de Paul. Alors de Paul à l'époque s'écrit en un seul mot d'ailleurs, hein, de Paul. Il décide de le prendre sous son aile en quelque sorte. Ce qui fait qu'à 15 ans, Vincent reçoit les ordres mineurs et la tonsure. Et à 20 ans, il va pouvoir aller demander au vieil évêque aveugle de Périgueux, monsieur de Bourdeille, de l'ordonner prêtre, ce qui évidemment sera fait sur le champ. À l'époque, un évêque pouvait faire ça et il se trouve que Bourdeille aimait beaucoup ce petit de Paul. Il est ensuite apprenti bachelier à l'université de Toulouse et à ce moment-là, pour gagner un peu sa vie, il décide d'ouvrir une pension. Mais attention, une pension destinée aux étudiants riches. Il y a très tôt chez ce jeune homme le sens de l'organisation et de l'efficacité. À 24 ans, il est bachelier en théologie et il va faire un héritage. Alors pour aller disputer cet héritage, parce que comme très souvent à l'époque, c'est encore le cas de temps en temps de nos jours, l'héritage est contesté, donc il y a procès. Il se rend à Marseille et après le procès, il veut rentrer chez lui et de Marseille, il prend le bateau jusqu'à Narbonne parce qu'à l'époque, les routes ne sont ni commodes ni très sûres. Eh oui, sauf que la voie de mer n'est pas sûre non plus. À l'époque, vous vous rappelez que la Méditerranée est infestée de pirates et les barbaresques vont capturer ce tout jeune homme, il a donc 24 ans, et l'emmener à Alger où il est enchaîné, vendu comme du bétail sur la place du marché d'Alger. On a fait une émission sur ce phénomène de l'esclavage aux barbaresques. Alors il va avoir un certain nombre de maîtres successifs, notamment un médecin qui va discuter avec lui, qui va faire de la philosophie, et puis un colon agriculteur qui se trouve être un Européen chrétien qui a depuis longtemps immigré dans l'Algérois et qui s'est converti. Il vit à la musulmane, comme dira Vincent, entre ces trois femmes. Sauf que, ne l'oubliez pas, Vincent a été ordonné prêtre. Alors il va user de tout ce qu'il a appris au séminaire et de sa foi et de son engagement pour endoctriner son maître en quelque sorte. Et il le convainc si bien qu'on va voir ce maître avec ses trois femmes faire le voyage jusqu'à Rome en compagnie de Vincent pour demander pardon au pape et absolution de tous ses grands péchés. Voilà donc notre Vincent de Paul dans la ville éternelle où il va très vite se faire des relations au point que l'ambassadeur de France, qui l'a trouvé extraordinaire, lui confie un certain nombre de dépêches secrètes pour le roi Henri IV. Et c'est comme ça que Vincent de Paul, alors on commence à écrire en deux mots, vous savez qu'à l'époque l'orthographe des noms n'est pas tellement arrêtée, c'est comme ça que Vincent de Paul va entrer à la cour en quelque sorte. Parce que le jour où il rencontre Henri IV, Henri IV était en train de se demander qu'il pouvait trouver comme confesseur pour sa première épouse, pour sa femme, sa première femme, la reine Margot. Ainsi donc, Vincent va devenir le confesseur de la reine Margot. Or, il faut savoir que Margot consacrait un tiers de ses revenus, qui était très important, à des œuvres de charité. Et que notamment, derrière son parc à Paris, se tenait la confrérie des frères de Saint-Jean de Dieu, qui était un véritable hospice et qui... À qui déléguait-elle le soin de faire les dons au bon frère? Eh bien, évidemment, à son confesseur. Et c'est comme ça que Vincent va découvrir, il va avoir alors là la révélation de la misère humaine dans cet hospice où se presse tout ce qu'il peut y avoir de plus malade, de plus miséreux, de plus fragile et démuni dans la société de l'époque. Il fait la connaissance aussi, tout petit peu plus tard, 4 ans plus tard, de Pierre de Bérulle, le futur cardinal de Bérulle, vous savez, qui, le fondateur du Carmel, qui va évidemment non seulement le subjuguer, mais lui donner une sorte d'axe. À partir de ce moment-là, on peut dire que Vincent de Paul est dans une approche théologique des problèmes de la pauvreté. Alors ça nous entraînerait peut-être un peu loin, mais il ne faut jamais oublier que derrière l'homme dévoué au service des pauvres, il y a évidemment un religieux et quelqu'un qui va formaliser sur un plan religieux l'aide qu'il leur apporte. Vincent va par la suite, parce que ça c'est par l'intermédiaire de Bérulle, il entre dans la famille de Gondi, il va devenir le confesseur de Madame de Gondi, qui l'emmène en Picardie où il découvre, alors la misère supplémentaire, la misère des paysans de France. On en parlait à l'instant, il ne faut pas oublier que les campagnes campagne sont encore plus pauvres que les villes à l'époque. Et c'est ce qui donne à Vincent de Paul l'envie de devenir curé de village. Mais alors, il se fait affecter très loin, dans les Dombes, à Châtillon. Et là, pendant des années, ça va durer 5 ans, il va se consacrer à la lutte contre la pauvreté, tout en restant en rapport, bien entendu, avec ses grandes relations parisiennes, et notamment avec la famille de Gondy. Faut pas oublier que Gondy, à l'époque, se trouve être directeur général des galères, et c'est comme ça que Vincent de Paul va devenir l'aumônier des galères. Et alors là, il va rencontrer une misère encore plus grande, si je puis dire, celle de ces prisonniers qui sont, vous savez, qui vivent dans des conditions épouvantables, de tous ces galériens. Daniel Rops, vous êtes le grand historien du christianisme, écrivait « Celui qui depuis toujours se préparait, cette âme l'avait décidément mis sur sa vraie route. L'abbé mondain Vincent de Paul était mort, monsieur Vincent allait entrer en action. » Ce prêtre Rusteau, à la soutane toujours un peu pas très fraîche, on va dire. D'ailleurs, on sait que Anne d'Autriche, vous savez, se moquait de lui. Elle lui disait « Enfin, mon père, vous devriez quand même faire un effort. » Il lui disait « Ah, madame, ni trou ni tache », en parlant de sa soutane. Ce paysan, si je puis dire, ce prêtre Rusteau, va devenir de plus en plus un habitué de la cour. Il va fonder toutes sortes d'institutions, dans le détail desquelles je n'ai évidemment pas le temps d'entrer, mais il faut savoir que les filles de la charité, notamment, vont s'installer un peu partout, hein, depuis l'Irlande jusqu'à Madagascar. Il s'occupe de 1000 affaires à la fois. Je vous ai dit qu'il avait ce sens extraordinaire de l'organisation et de l'efficacité, le tout toujours fondu, cousu de bonté, d'humanité, de générosité. Plus de 40 ans durant, jusqu'à son dernier souffle, on verra Monsieur Vincent sur la brèche, à la fois aumônier des galères, à la fois fondateur de toutes ces institutions pour les pauvres, et puis, bien entendu, proche de la famille royale. On sait qu'en 1643, lorsqu'il se sent vraiment mal à partir de février, le roi Louis XIII le fait venir comme confesseur, alors qu'il avait un propre confesseur jésuite. Mais c'est avec lui qu'il va se préparer à mourir, et il lui dit un jour, il se croit peut-être sauvé, « Ah, Monsieur Vincent, si je reviens à la santé, je veux que tous les évoques soient 3 ans chez vous. » Vous voyez, ça nous donne une idée de ce que devait être l'incroyable luminosité de l'esprit de Vincent de Paul, qui, après la mort de Louis XIII, va devenir le confesseur en titre de la reine. Et on sait que le Premier ministre Mazarin disait « Monsieur Vincent est le canal par qui tout arrive aux oreilles de Sa Majesté. » Et cependant, ni le service du roi, ni celui de la reine ne le détourneront longtemps de ceux auxquels il était avant tout dévoué, c'est-à-dire des plus humbles.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il vous, c'est moi, Menon, c'est l'accordéon. Accordez, accordez, accordez donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon.
L'accordéon, Juliette Gréco sur Europe 1 pour l'émission.
Accordé, l'aumône à l'accordéon, c'est tellement
que
beau.
Que c'est beau. Et les réactions sont nombreuses d'ailleurs sur cette émission.
Alors oui, beaucoup de réactions. Alors notamment sur Saint-Vincent de Paul, je ne pensais pas susciter autant de réactions à son propos, mais tant mieux. Sylvie nous dit qu'elle travaille au sein d'une association qui revendique les valeurs de Saint-Vincent de Paul et qu'elle aurait aimé en connaître un peu plus sur ce personnage. Ben voilà, c'est fait. Donc je pense que le message, oui c'est ça, le message est arrivé juste avant, heureusement. Frédéric Ozanam et la société Saint-Vincent de Paul. Alors ça c'est à propos du bicentenaire de Frédéric Ozanam et des 180 ans de cette société Saint-Vincent de Paul qu'il avait fondé à Paris à l'âge de 20 ans et qui compte aujourd'hui 800 000 membres dans 145 pays. Les célébrations de cet événement auront lieu au Palais d'Iéna du 19 au 21 avril prochain. Et puis alors beaucoup d'autres messages de toutes sortes, je ne peux pas les lire, mais notamment à propos de cette idée de nomadisme, vous savez, on parlait de ces vagabonds qui bougent, c'est Florian qui nous conseille la lecture de l'ouvrage de Michel Maffezoli du nomadisme vagabondage initiatique. Alors justement, Dominique Khalifa, c'est intéressant ce qui se passe avec Saint-Vincent de Paul, parce que d'un côté, on a cet homme qui se dévoue, je pense vraiment très sincèrement, d'une manière extraordinairement pure, à tous ces pauvres, à tous ces vagabonds, et en même temps, on est bien dans la création d'institutions qui vont essayer de ranger tout le monde.
Oui, absolument, mais les institutions sont des institutions étatiques. Hein. Le pouvoir royal, lorsqu'il crée l'hôpital général, effectivement, a un désir de réorganiser l'ensemble de sa capacité à organiser le monde social, tandis que les églises, la philanthropie, l'ensemble des personnes, effectivement, qui vont très généreusement et très sincèrement aider les pauvres, se situent effectivement dans une toute autre perspective.
Est-ce que le pauvre... au XVIIe, et on va arriver maintenant au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, est-ce que les pauvres, d'une façon générale, ont perdu cette dimension lumineuse, sacrée, qu'ils avaient pu avoir au Moyen-Âge, à ce moment-là? Vous avez l'air de dire oui, André Guélin.
Oui, je dis oui, parce que c'est réel. Mm-hmm. Songez, une anecdote, c'est permis de faire une anecdote?
Bien sûr, mais non seulement permis, mais c'est conseillé.
D'accord, je vais en faire une alors. 1820, la veuve d'un petit industriel vosgien écrit dans ses mémoires, à la fin de sa vie, qu'elle s'est mariée avec son bon mari, un industriel, et qu'elle lui a dit « je veux me marier, mais je veux continuer à faire du bien aux pauvres ». Et l'industriel a dit « oui, on va faire du bien aux pauvres si on réussit ». Et elle finit en disant « on a réussi, j'ai fait du bien aux pauvres pour que là-haut, il y ait quelqu'un qui intercède au nom du Père bon Dieu ».
Ah, voilà.
Et donc, par conséquent, ça dure jusqu'au 19e siècle.
Oui, il y a quand même cette tradition-là, incontestablement.
L'Ancien Testament est peuplé de ça. Le père de Moïse, mon père était un araméen vagabond. Donc, par conséquent, c'est quelqu'un de bien. C'est Luc, l'évangile de Luc, faites-vous des trésors d'iniquité avec les trésors éternels. Donc, par conséquent... il s'agit vraiment d'aider les pauvres pour que quelque part on ait un intermédiaire là-haut.
Mais en même temps, ces pauvres, on s'en méfie de plus en plus. Ils deviennent en quelque sorte un être malfaisant. Est-ce qu'on peut dire ça, Dominique Khalifa?
Oui, je pense. Vous évoquiez tout à l'heure, Franck Ferrand, les galères. Hein.
Oui,
on envoie quand même les vagabonds et les mendiants aux galères. André Guélin, au début de l'émission, évoquait la criminalisation permanente, effectivement, qui...
On envoie aux galères ceux qui sont suffisamment valides, évidemment, hein, pour pouvoir devenir de la bonne...
Peut-être parfois, on ne regarde pas aussi précisément leur état. Il y a des grandes rafles, oui. Effectivement, mm-hmm. qui... Mm-hmm. Tant pis s'il y a du déchet dans la galère.
Oui, permettez-moi juste une nuance, Dominique. Juste une nuance en ce qui concerne les galères. C'est vrai qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on a moins de difficultés pour appeler les galères. Mais au départ, c'était une punition. Mais c'était, comme vous le dites, Franck Ferrand, c'est vraiment utile. Les gens ne voulaient plus aller aux galères parce qu'on s'apercevait que le métier de galérien était un métier d'homme-machine et ça ne pouvait plus durer. Et par conséquent, on mettait les pauvres, on mettait notamment les mendiants vagabonds parce qu'on avait besoin d'hommes. Et donc on les raflait, comme vient de le dire Dominique Khalifa, mais avant le 16e. Après, au 17e, 18e, on en a moins besoin. Donc officiellement, la peine des galères existe toujours, mais il faut reconnaître qu'ils vont de moins en moins.
Et puis, elle va être de plus en plus réservée aux protestants, hein, notamment. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Évidemment, c'est pas celui d'aujourd'hui. On peut dire que peu à peu, évidemment, le statut du vagabond va changer. Les grands règnes sont toujours des règnes de mise en ordre. Sous Louis XIV, c'était l'hôpital général. Sous Napoléon Ier, on va voir inscrire dans le code pénal un délit de vagabondage.
Oui, 1810, le code pénal inscrit le délit de vagabondage et de mendicité. Et en parallèle, l'Empire, enfin, ça avait été un petit peu créé auparavant, mais l'Empire va généraliser les dépôts de mendicité, hein, en créant en incitant à la création dans chaque département de dépôts de mendicité dans lesquels, effectivement, on devait enfermer et mettre au travail les pauvres, les vagabonds, les mendiants que l'on
avec
arrêtait.
Avec cette notion, cette valeur du travail qui ne va cesser de devenir de plus en plus prégnante dans la société, hein.
Ça, c'est essentiel.
Ah oui, hein.
La valeur travail dure depuis le Moyen-Âge. Mais songez que je l'ai dit des fois et les gens sont parfois surpris, mais c'est inscrit dans les Écritures. Donc, par conséquent, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas, dit Paul. Et donc, par conséquent, il faut travailler. Cette valeur travail, moi, je crois, en fin de compte, je ne sais pas ce qu'en pense Dominique Khalifa, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, la valeur travail est devenue tellement importante qu'on a dit, ceux qui ne travaillent pas, ce sont les mauvais, donc, en particulier les vagabonds, parce que par définition, s'ils vaguent, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Longtemps, rappelez-vous, Franck Ferrand, mais je sors un peu de l'histoire là, mais parce que ça me passionne. Bon, longtemps, au Café du Commerce, on disait les chômeurs, ce sont des fainéants. Donc par contre, on n'allait pas chercher pourquoi ils chômaient. Et donc pour les vagabonds, c'est encore pire.
Oui, c'était encore plus simple. Ah, oui, d'ailleurs, et de nulle part, mendiant, vagabond, clochard, SDF en France depuis le Moyen-Âge. C'est l'ouvrage d'André Guélin qui vient de paraître chez Fayard.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1, vous en parliez tout à l'heure, Franck, dans votre introduction du film de Jean Renoir, Boudu sauvé des eaux.
Alors oui, avec ce Michel Simon en clochard universel. Alors le clochard, il va naître plus tard, à la fin du 19e siècle, on va y venir dans un instant. Mais auparavant, il y a une autre notion qui naît au premier tiers du 19e siècle, c'est-à-dire sous la monarchie de Juillet, sous le règne de Louis-Philippe, c'est la notion de bas-fond, justement, Dominique Khalifa.
Absolument. Alors on connaissait l'expression dans son acception maritime, mais au sens social, c'est vers 1840 que des romanciers, des économistes, des policiers, dans une convergence assez étonnante, vont proposer...
Tout le monde est sur la même longueur d'onde.
C'est l'esprit du temps. C'est quelque chose qui inquiète les gens à cette époque. Vont proposer cette expression de bas-fond qui est assez étonnante parce qu'elle fait, elle procède à des amalgames terribles entre tous ces pauvres, ces vagabonds, ces indigents, ces mendiants que nous évoquons depuis le début de l'émission, mais aussi, et c'est fondamental dans la notion de bas-fond, un monde qui serait aussi celui du vice, de l'immoralité, de la prostitution, et puis aussi, bien sûr, un monde du crime, de la délinquance. Et cette notion de bas-fond va postuler qu'entre l'extrême pauvreté, l'immoralité, le vice, le crime, il y a des liens très forts, des liens intrinsèques.
Et l'irruption du crime et du vice, alors si je reprends une célèbre citation de Victor Hugo, du crime pour les hommes et du vice pour les femmes, dit-il, il dit que ce sont les deux produits de l'extrême pauvreté. Ces notions-là nous amènent à une dimension policière du phénomène. Comment la police gère-t-elle tous ces pauvres?
Alors, comme on le disait tout à l'heure, dans la mesure du possible, mais les moyens de police sont importants à Paris, beaucoup plus faibles ailleurs, on va tenter de les enfermer, sauf que les départements ne créent pas suffisamment les dépôts de mendicité là où on voulait les créer. Finalement, il n'y en aura pas tant que ça à la fin du 19e siècle. Mais la police est néanmoins fortement intéressée par ces questions-là, parce qu'il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui est... Nous sommes au 19e siècle, nous sommes après la Révolution française, nous sommes à un moment où les émeutes, les insurrections, les barricades se multiplient, et il y a ce sentiment...
Il faut contrôler les villes.
C'est tout à fait fondamental dans la notion même de bas-fond, que les hommes et les femmes qui sont dans la rue, qui sont sur les barricades, qui mêlent la
population...
Les misérables, ce sont aussi effectivement les produits des bas-fonds, d'où une surveillance... Alors le texte de Hugo est magnifique à cet égard.
Oui, bien sûr.
Effectivement, il permet de faire la synthèse entre l'ensemble de ces...
Et ce qui est extraordinaire chez Victor Hugo, c'est qu'il donne en quelque sorte ses lettres de noblesse à ce phénomène, à ces remugles des fonds de la société, de ce qu'on va appeler les bas-fonds.
Sauf que dans Les Misérables, la dynamique, c'est la montée d'une âme vers la lumière. Oui. Donc c'est presque un anti-roman des bas-fonds. Dans Les bas-fonds, on plonge. Là, chez Hugo, on remonte.
Chez Gorky aussi, d'une certaine façon.
Oui, la pièce de Gorky, donc les bas-fonds de 1901, mais la fin est quand même sinistre par rapport au film de Renoir. Dans le film de Renoir, tout se passe bien. Jean Gabin s'en va, il vit son amour. Dans la pièce de Renoir, l'amour est impossible. La pièce se termine quand même dans l'horreur de l'asile de pauvres.
Oui, c'est très noir.
Ouais, c'est noir.
Alors, André Guélin, j'ai parlé de ces clochards depuis le début, c'est un mot qu'on a très peu prononcé dans l'émission. La notion et l'appellation de clochard arrivent tard, finalement.
Oui. Permettez-moi juste une nuance avant de répondre à votre question. Je réponds immédiatement, je vais très vite. Je pense qu'il ne faudrait pas quand même confondre l'image qu'on a des clochards et la réalité. C'est-à-dire que l'image des pauvres est forcément une image négative, une représentation négative sur laquelle j'insiste beaucoup, mais... C'est pas la réalité. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un crime horrible qui s'est fait hier ou aujourd'hui, on impute à l'ensemble des clochards. Vous savez très bien comment
bien
on
sûr.
Fait. Donc, il faut faire très, très attention.
Il y a un phénomène de bouc émissaire, évidemment.
Voilà, il y a un phénomène, exactement, un phénomène de bouc émissaire qu'a noté d'ailleurs également Dominique Khalifa dans son livre.
Bien sûr.
Donc, en ce qui concerne les
clochards. Alors, nos clochards, oui. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle des clochards, il y a tout de suite une forme de tendresse. C'est une notion qui, par rapport à celle des vagabonds, des gueux, de tout ce qu'on a pu dire, évidemment des bas-fonds, alors là, qui sont très négatifs et très noirs. La notion de clochard, elle est plutôt connotée positivement dans l'esprit collectif.
Ouais. c'est le versant lumineux.
C'est ça.
C'est le versant lumineux. Le terme clochard apparaît en France vers 1895. Par exemple, dans le rang Larousse, 1875, on ne trouve pas le mot clochard.
Mais ça n'existe pas encore, hein, c'est fou.
Voilà. Alors, il arrive un petit peu comme sentiment d'une personne qui est instable, peut-être. C'est une explication possible, mais il n'y a pas que celle-là. Donc, mais c'est progressivement qu'avec l'épanouissement de l'industrialisation, notamment dans l'entre-deux-guerres, que le clochard va être transcendé.
Chez Georges Simenon, par exemple, le clochard devient quasiment le dépositaire d'une forme de liberté.
Exactement.
Mais en fait, c'est une période. Je pense que le moment d'émergence des clochards, c'est-à-dire le début du XXe siècle,
1900,
jusque dans les années 60-70, où d'autres termes vont apparaître,
voilà,
c'est aussi un moment, les SDF, etc., c'est aussi un moment où la conjoncture est beaucoup plus favorable, où la protection sociale augmente, où les débuts de l'État-providence se mettent en place.
Il y a deux guerres mondiales aussi.
Oui, il y a deux guerres mondiales, mais il y a aussi des lois sociales, effectivement. Et donc, effectivement, où on va peut-être avoir, vis-à-vis de cette population d'exclus, moins de crispation que dans la période précédente ou dans la période contemporaine, qui voit revenir.
Mais pourquoi ? Pourquoi, justement ? C'est parce que c'est une époque où le nombre intrinsèque de clochards diminue.
Absolument.
La France s'enrichit avec l'industrialisation et quelque part, on se dit qu'ils vont disparaître.
On a presque l'impression, mais je sais bien que c'est qu'une impression. je devance votre nuance, André Guélin. Mais on a presque l'impression qu'à partir de, dans les années 50, je parlais des romans de Simenon parce qu'il a vraiment donné tellement d'importance aux clochards. On a l'impression que ce sont des gens qui philosophiquement, quasiment de manière antique, ont fait le choix d'une certaine vie en marge.
On veut le penser.
On veut le penser.
Ça reste une vue de l'esprit.
C'est une vue de l'esprit, oui, bien sûr.
On veut le penser. Même les spécialistes ont vu quelques personnes de clochards philosophes, qu'on dit clochards philosophes, c'est-à-dire de clochards qui sont mis en route pour fuir la société. Pour faire la société, et par conséquent, vous parliez tout à l'heure merveilleusement de Beckett, et en attendant Godot.
Oui, bien sûr.
Donc, certaines façons, Beckett, dans les années 50, il écrit en 1950, il donne une certaine morale. C'est-à-dire que ces deux, Estragon et son compagnon, sont là.
C'est Socrate et Diogène, en fait. Hein.
Voilà, sont là sur la route. Et finalement, on s'aperçoit que les deux intégrés, Pozzo et Lucchi, finalement finissent mal.
Oui, ce sont les perdus de l'affaire.
Voilà. Et c'est les deux qui transcendent tout le monde. Et donc, voilà le bon voyage. Alors, ça va être merveilleux, encore une fois, quand vous le dites, alors, autour de Kerouac.
Ah oui, bien
parce
sûr.
Qu'autour de Kerouac,
ça prend une dimension.
Non, au summum. Et là, je pense que les Français.
Et Jack London, qu'il ne faut pas oublier, hein, dans cette littérature du vagabondage.
Oui, mais Kerouac était plus
fort.
Quand même.
Oui, plus fort. On peut dire, alors là, ça c'est assez étonnant, que dans nos périodes alors plus récentes, je ne sais pas comment on peut dater ça, sans doute au tournant des années, au milieu peut-être des années 70, la société est soudain prise d'une forme de culpabilité à l'égard des clochards. Alors on se met à employer des initiales SDF sans domicile fixe, qui sont du reste des initiales policières qui dataient de très longtemps.
Qui dataient de la Belle Époque, oui. Mais ça n'avait pas pris, on avait proposé cette nomenclature à la Belle Époque sans qu'elle ait réussi à faire souche. Oui, bien sûr, mais en même temps, contextuellement, ce qui se passe à compter des années 70 est un renversement de conjoncture extrêmement fort, quantitatif, on l'a vu. Moi, l'hypothèse que je fais à propos des bas-fonds, on a évoqué tout à l'heure le départ, hein, c'est les années 1830-1840, mon hypothèse est que cet imaginaire tend à se délier quand même, à se dénouer dans les années 50-60. Et connaître aujourd'hui des retours et des réactivations extrêmement forts qui sont contextuellement explicables par les crises économiques et les désastres sociaux, les déroutes sociales que nous connaissons.
Oui, mais avec cette différence, excuse-moi, avec cette différence qu'aujourd'hui, le SDF qui est dans la rue, 50% des Français, sur les derniers sondages, se disent que ça sera peut-être moins un jour.
Mais oui, bien sûr, il y a cette projection personnelle.
Et voilà, on ne peut plus construire des bas-fonds d'une façon critique. Je ne sais pas ce que tu en penses exactement. Parce que, de toute façon, on se dit que peut-être que ça sera moi. Et alors, à ce moment-là, on les aime.
Les bas-fonds, merci beaucoup André Guélin. Dominique Khalifa, Les bas-fonds, histoire d'un imaginaire. C'est publié chez Seuil dans la collection magnifique que l'univers historique.
La pub arrive.
Et d'André Guélin, une histoire de la grande pauvreté dans la France du XXe siècle. Je n'avais pas cité cet ouvrage. Et puis, bien sûr, D'ailleurs et de nulle part, mendiant vagabond clochard SDF en France depuis le Moyen-Âge. C'est édité chez Fayard.